Vatican News, le journal, il est 8h30.
Il n'y a plus de dialogue possible entre les États-Unis et l'Iran. Le ministère iranien des Affaires étrangères estime ce matin qu'en imposant de nouvelles sanctions contre cette fois leur guide suprême, Washington a fermé de manière permanente la voie de la diplomatie. Monseigneur Dubost, nommé administrateur apostolique du diocèse de Lyon en France, le pape François a chargé l'ancien évêque d'Evry Corbeil-Essonne de guider le diocèse marqué par le retrait du cardinal Barbarin. Des milliers de Géorgiens dans la rue hier soir, cinquième jour de contestation pour réclamer la fin des oligarques, et ce, malgré des contestations faites par l'un d'entre eux, le chef du parti au pouvoir. Libérez mon peuple, le titre du message sans concession des évêques congolais à l'adresse des responsables du pays, on y revient dans ce journal. Enfin, en pleine période d'examen, comment réussir son bac en Centrafrique? Notre dossier sera consacré au pari de l'enseignement à distance en RCA.
Le journal, Marie Duhamel.
Bonjour à tous. Le Conseil de sécurité de l'ONU réunit cette nuit à la demande des États-Unis pour parler de l'Iran. L'ONU qui appelle dans une déclaration au dialogue entre Washington et Téhéran. Mais pour les Iraniens, le climat n'est pas propice aux discussions. Washington a fermé de façon permanente la voie de la diplomatie, affirme donc Téhéran ce matin. Il faut dire qu'hier, le président américain Donald Trump a signé de nouvelles sanctions et elles ne visent pas n'importe qui. Des hauts gradés des gardiens de la révolution et surtout le guide suprême iranien. Les explications à Washington de Lubna Anaki.
Pas d'armes nucléaires, pas de soutien aux terroristes. Ce tweet du président américain résume les exigences des États-Unis envers le régime iranien. Avec ces nouvelles sanctions annoncées, Donald Trump divisait l'ayatollah Ali Khamenei, responsable selon lui de l'attitude hostile de Téhéran vers Washington. Sans entrer dans le détail des mesures, le président américain parle de sanctions fortes et proportionnées aux actes provocateurs de l'Iran. Il s'agit selon lui d'empêcher les hauts responsables iraniens d'accéder à des ressources financières clés. Des proches collaborateurs du guide suprême iranien sont également visés, son ministre des Affaires étrangères Javad Zarif, ainsi que des membres de l'état-major des gardiens de la Révolution. Selon le secrétaire au Trésor américain, ces sanctions devraient permettre de bloquer plusieurs milliards d'actifs iraniens. Ces mesures interviennent à la suite de 2 semaines de tensions extrêmes entre les États-Unis et l'Iran, notamment après les attaques contre 2 pétroliers et la destruction d'un drone américain dans le détroit d'Ormuz. L'administration américaine dit vouloir ainsi maintenir la pression sur l'Iran. À New York, Lubna Anaki pour Radio Vatican.
Maintes fois reportées, les États-Unis présenteront finalement dans les heures qui viennent à Bahreïn leur plan pour résoudre le conflit israélo-palestinien, du moins son volet économique. Jared Kushner, gendre de Donald Trump et artisan de ce texte, ambitionne de récolter plus de 50 milliards de dollars pour les Palestiniens de Cisjordanie pour financer sur place des projets d'infrastructure, d'éducation, le tourisme et le commerce. Lors de cette conférence, pas un mot de politique sur l'occupation israélienne ou le statut de Jérusalem. Les Palestiniens boycottent donc la rencontre. La météo à la une de la presse européenne. Si le Royaume-Uni s'inquiète du risque d'orages violents ce mardi, ses voisins redoutent une vague de chaleur en provenance du Sahara. 42 degrés annoncés dans le nord-est de l'Espagne. Les Allemands annoncent des températures parmi les plus élevées jamais enregistrées depuis plus de 70 ans. En France, alerte canicule. Les épreuves du brevet des collèges ont été reportées à la semaine prochaine. Partout, les consignes sont les mêmes. Se couvrir la tête, éviter le sport en pleine journée et surtout, ne pas oublier de hydraté. L'annonce a été faite hier. Le pape François a nommé Monseigneur Michel Dubost, administrateur apostolique du diocèse de Lyon. L'ancien évêque du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonne, évêque aux armées, vient donc prendre en main un diocèse marqué par le retrait du cardinal Barbarin, dont le procès en appel se tiendra à la fin de l'année. Olivier Bonnel a joint hier Monseigneur Dubost juste après l'officialisation de sa nomination.
L'immense partie des chrétiens, ils ont des avis très différents sur ces questions-là. Et ils ont... regrettent tous les drames qui se sont passés, mais ils n'ont pas les mêmes réactions après. Ils veulent construire quelque chose, et moi je suis là au service de cette construction, de faire que des gens qui sont différents, qui n'apprécient pas les choses de la même manière, fassent une communion pour qu'ils soient ensemble une vivante offrande à la louange du gloire du Seigneur.
Le directeur de la salle de presse du Saint-Siège expliquait ce matin que le cardinal Barbarin ne renonçait pas à sa charge d'archevêque, mais devait pleinement collaborer et sereinement à votre mandat.
Ce qui se passe, c'est exactement la mise en note juridique, canonique, de ce qui se passait avant. Ça ne change pratiquement rien à la situation. Hier, le cardinal était cardinal, mais il déléguait ses pouvoirs aujourd'hui en disant qu'il voulait prendre de la distance, et le pape ne voulait pas qu'il quitte son poste pour le moment. Donc il reste cardinal, le pape a raison là-dessus, et puis le cardinal Barbarin, au fond, a obtenu de prendre une distance réelle et officielle, et ma nomination correspond, au fond, à l'acquiescement et à la volonté du pape, au désir du cardinal Barbarin d'être à distance de son travail.
Monseigneur Dubost, interrogé par Olivier Bonnel. Soit un homme, l'invective lancée hier par le ministre britannique des Affaires étrangères à son rival dans la course à la succession pour Downing Street. Le favori des sondages pour prendre le poste de Theresa May, Boris Johnson, a en effet refusé de participer aujourd'hui à un débat télévisé avec Jeremy Hunt. Boris Johnson, qui a néanmoins accordé une interview à la BBC hier soir, le farouche défenseur du Brexit a reconnu que la collaboration de l'Union européenne sera nécessaire pour amortir les chocs en cas de sortie sans accord. 11 ans après le blitz russe de 2008 en Géorgie, les relations entre les deux pays restent tendues. Preuve en est, l'intervention d'un député russe la semaine dernière au Parlement de Tbilissi a été très mal perçue par la population géorgienne, qui est aussitôt descendue dans la rue pour réclamer la fin des oligarques, à commencer par le chef du parti au pouvoir. Après 4 jours de manifestations, dont des échauffourées violentes, l'homme fort du parti du pays et du parti d'ailleurs a promis hier de réformer en profondeur le système électoral, mais apparemment ce n'est pas suffisant. Stéphane Suan.
Lundi soir, des milliers de Géorgiens ont continué à manifester dans le centre de Tbilissi, alors que quelques heures plus tôt, le chef du parti principal du pays venait d'annoncer que la proportionnelle serait instaurée pour la prochaine élection législative en 2020. Une concession de taille, sachant que le système électoral géorgien est taillé pour assurer une domination sans partage à son parti, appelé le rêve géorgien. Cependant, ils sont nombreux à réclamer la démission du ministre de l'Intérieur après que 240 manifestants aient été blessés la semaine dernière dans les affrontements avec la police. Durant le week-end, le Kremlin a décidé d'interdire à partir du 8 juillet les vols des compagnies aériennes russes vers la Géorgie, dénonçant des provocations russophobes, mais aussi de renforcer les contrôles sur les importations en Russie de vins géorgiens, alors que le tourisme et la viticulture sont deux des ressources majeures de la petite république caucasienne. Sur les réseaux sociaux, les Géorgiens ont réagi avec humour à cette tentative d'empêcher les nombreux touristes russes de se rendre dans leur pays. Ils ont invité en masse les étrangers à venir séjourner chez eux gratuitement pour profiter de l'hospitalité du pays, mais aussi soutenir l'économie du tourisme. Kiev, Stéphane Suan pour Vatican News.
Manifestation de l'opposition reportée à jeudi en Mauritanie. D'ici là, les 4 opposants en lice pour la présidentielle appellent au calme, ce qui ne les empêche pas de rejeter les résultats provisoires annoncés par la commission électorale. Résultat qui accorde la victoire au premier tour au candidat du pouvoir, l'ancien général Mohamed Cheikh El Ghazouani. Les évêques congolais exhortent le président Tshisekedi à assumer pleinement ses responsabilités de chef de l'État. À l'issue de leur assemblée plénière, la CENCO délivre un message long, dense, dans un pays ravagé par les violences et la corruption. La conférence épiscopale prend la plume pour porter la voix des citoyens.
Tout d'abord, les évêques prennent le soin de féliciter le nouveau président Félix Tshisekedi pour son arrivée au pouvoir. Mais attention, son arrivée à la tête du pays promettait un vent de changement qui aujourd'hui ne se fait pas sentir. Puis les prélats dressent un constat préoccupant, il faut le dire, pour la RD Congo. D'abord sur le plan politique, le gouvernement n'est toujours pas en place. Gouverneurs et sénateurs se livrent sans vergogne au spectacle de la corruption. Une corruption qui est carrément institutionnalisée dans l'éducation. Un constat inquiétant sur le plan sécuritaire également. Les violences continuent dans le Kivu, elles s'aggravent en Ituri. Le plan de balkanisation du pays continue, tandis que le virus Ebola, lui, poursuit sa route mortifère. Le cap des 1500 morts en 10 mois a été franchi. Viennent ensuite les recommandations des évêques. Le chef d'État doit assumer ses responsabilités, instaurer un véritable état de droit et donner à l'armée les moyens de garantir la sécurité de la population. Des recommandations concrètes. Le futur gouvernement doit se préoccuper du grave de voire de l'éducation, et cela passe par la régularisation des enseignants non payés et la gratuité du système scolaire. En conclusion, le peuple veut du changement, car personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres.
Un compte-rendu signé Marine Henriot. Enfin, en Centrafrique, à l'issue de leur assemblée plénière, les évêques dénoncent là l'hypocrisie des accords de paix signés depuis le début de la crise en RC en 2013. Le peuple est fatigué par l'hypocrisie qui caractérise ces textes qui, une fois signés, sont aussitôt violés. Les évêques exhortent la communauté internationale à ne pas faire en sorte que les paroles restent de simples engagements verbaux, mais qu'ils soient respectés, ces textes, dans les faits. Nous évoquions tout à l'heure le brevet des collèges en France, mais c'est la période des examens dans de nombreux pays. En République centrafricaine, justement, les épreuves du baccalauréat touchent à leur fin dans un pays laminé par des années de conflit où des pans entiers de territoire sont encore aux mains de groupes armés. Il n'est pas facile d'étudier. Pourtant, une initiative tente de pallier les problèmes matériels et pédagogiques dont souffre le pays, le télé-enseignement. You Hope Company, fondée par un centrafricain de la diaspora, tente ainsi une expérience: enseigner à distance à des élèves de terminale d'une école musulmane du PK5 à Bangui. Malgré les difficultés, les premiers essais sont encourageants. Reportage dans la capitale de Centrafrique de Xavier Sartre.
Des blindés blancs de la MINUSCA, la force des Nations Unies en Centrafrique, gardent l'entrée du PK5, enclave musulmane au cœur de Bangui. Si les rues sont calmes aujourd'hui, elles peuvent s'embraser d'un moment à l'autre, tant la situation politique du pays reste incertaine. C'est dans ce quartier que se trouve en face d'une mosquée l'école Cheikh Anta Diop, un établissement qui regroupe des élèves allant du primaire à la terminale. C'est elle qui a été choisie par l'Association des cadres musulmans de Centrafrique, la CCM, et You Hope, une compagnie créée par Ulysse Baguida, un centrafricain vivant en Belgique, pour mener l'expérience du téléenseignement. Expérience commencée l'année dernière, avant la signature de l'accord de paix du 6 février. Ulysse Baguida.
À cette époque, les enseignants n'osaient pas aller au PK5, au kilomètre 5, parce qu'il y avait trop d'insécurité. Et les choses se sont mises en place. Cette ONG, la CCM, a travaillé avec nous. On a travaillé ensemble pour qu'on puisse réunir les conditions nécessaires pour commencer. Ils ont eux-mêmes cotisé pour payer un installateur d'antenne VSAT, donc de connexion par satellite. Et nous avons pris en charge, nous, les frais liés à la connexion et à tout ce qui a permis plutôt de donner les cours à distance.
Il a fallu installer une antenne satellite pour recevoir Internet, doter l'école d'un groupe électrogène pour pallier les fréquentes coupures de courant et installer, outre l'ordinateur, un projecteur pour avoir l'image du professeur et son tableau. Des conditions insolites pour cette école, d'où une certaine appréhension au départ, reconnaît le proviseur Joseph Hilaire en Guimaté.
Au début, ça a été difficile parce que les enfants ne sont pas habitués à ce genre de choses. Après deux ou trois séances, ils s'y sont mis, ils s'y sont intéressés. Malheureusement, on n'a pas fait long feu à cause du vol de notre générateur électrique. C'est ce qui a fait que les choses sont bloquées. Il n'y a pas seulement ce vol, mais vous savez que la situation du pays est telle que de temps en temps, on est obligé de se blottir chez soi. Les enfants aussi ne viennent plus.
Ahmed a bravé ses difficultés l'année dernière pour suivre les cours de philo et d'économie. Il est l'un des premiers à avoir bénéficié du nouveau système. Il a ainsi passé son bac et peut étudier cette année dans une université en Arabie Saoudite.
Au premier trimestre, il y a assez de problèmes dans Bangui, donc on n'a pas pu avoir un professeur en philosophie. Et par après, j'ai commencé les cours avec M. Ulysse. J'étais le seul élève qui est toujours présent. J'ai vraiment bénéficié en philosophie parce que j'ai eu des bases en philosophie, des pensées philosophiques et aussi en sciences éco. J'ai tiré beaucoup de profits.
Les bénéfices de cette méthode, Ali Ousmane les reconnaît aussi. Il est le trésorier de l'Association des cadres musulmans, la CCM, le partenaire du projet.
Vraiment, ça a été très très, très bénéfique. Hein. Nous voulons que cette expérience puisse être renouvelée ici d'abord à Bangui. On va bien l'expérimenter et l'étendre aussi dans nos provinces, qui a vraiment un besoin immense hein, en matière d'éducation. Parce qu'il y a des générations des enfants qui ne vont plus à l'école. Hein. L'État n'est pas présent dans certains secteurs du pays, vous le savez.
Un désir partagé par des membres du ministère de l'Éducation qui voient une solution aux maux endémiques dont pâtit l'enseignement en Centrafrique depuis toujours. Pour Ulysse Baguida, c'est un premier pas plus qu'encourageant.
Tout le monde a essayé d'y mettre du sien, que ça soit sur le plan financier, que ça soit des heures de travail. Et multiplier ce type de projet avec des personnes qui sont motivées ne peut qu'enrichir la vie d'un pays, la cohésion d'un pays.
Et peut-être aussi profiter à ses élèves de primaire, même si pour eux, le bac est encore très loin.
Voilà, l'enseignement à distance pour les élèves du PK5 à Bangui, la mission de You Hope Company, sujet réalisé par Xavier Sartre et dossier ce matin de la rédaction. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, de votre écoute attentive. L'actualité du monde et bien sûr de l'Église dans le monde revient tout à l'heure à 13h heure de Rome. Une excellente journée à vous tous.